Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Depuis toujours, la musique est présente dans la société des hommes. Elle est, on peut le dire, un stimulus culturel. Elle peut calmer, ne dit-on pas d'ailleurs que la musique adoucit les mœurs, elle peut exacerber, elle peut stimuler, et on peut penser d'ailleurs aux marches militaires, elle accompagne les rites sociaux et culturels, elle favorise enfin la convivialité. Mais en matière de son et de rythme, le langage, avec ses phonèmes, ses intonations, ses silences, ses accentuations, n'utilise-t-il pas les mêmes réseaux ? Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque les informations arrivent et que cela induit des sentiments de joie, de tristesse, des émotions fortes ? Et si on pense au rôle de l'affect dans le processus cognitif, alors on peut concevoir l'impact de la musique, l'impact que peut avoir la musique sur l'homme. Pour nous éclairer sur tous ces mécanismes complexes, j'ai invité Monsieur Daniel Schön, qui nous a fait l'immense plaisir d'accepter notre invitation. Merci Daniel d'être avec nous. Pour nos auditeurs de Radio JM.
Merci à toi pour l'invitation, Roland.
Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais te présenter à nos auditeurs. Alors, Daniel a deux aspects, et c'est ce qui fait qu'il est tout à fait l'homme adéquat ce soir. Côté musique, Daniel Schön a étudié le violoncelle au Conservatoire de Padoue, en Italie. Il s'est ensuite perfectionné avec de grands maîtres, comme Teodora Campanero et Menachem Meir, et il m'a précisé, d'ailleurs je ne savais pas, que c'est le fils de Golda Meir. Alors ensuite tu as joué dans plusieurs formations, baroque, classique, jazz, avec une prédilection pour la musique de chambre, et en particulier le quatuor à cordes.
C'est ça.
Côté science maintenant. Toujours en Italie, tu fais des études en neuropsychologie à l'université de Padoue. Puis tu obtiens un doctorat en neurosciences à Marseille et Trieste. Ensuite, tu deviens chercheur au CNRS, puis directeur de recherche à l'Institut de neurosciences des systèmes à Marseille. Alors, tu t'intéresses plus particulièrement au lien entre la musique, le langage et le cerveau. Des publications, tu en as fait des tonnes, j'en citerai aucune, d'abord parce qu'il y en a trop, et deuxièmement parce qu'elles sont la plupart en anglais, donc on sait que tu en as fait beaucoup, et puis bien sûr tu fais des conférences, et tu participes à des colloques.
Exact.
Alors j'ai recherché un petit peu, j'ai trouvé deux colloques que je vais citer. Tu es intervenu à l'AFIRM, c'est une association franco-israélienne pour la recherche en neurosciences. C'est une association qui est née il y a environ 5 ans, créée par le professeur Jean-Claude Picard, au moment où, en France, plusieurs universités ont déclenché le boycott des sciences israéliennes. Donc tu es intervenu là, c'était le 9e colloque, le titre c'était « Art, musique et créativité, que nous apprennent les neurosciences ». Première question, ce sont des questions un peu bateau, hein, je ne suis pas spécialiste. Notre cerveau a-t-il quelque chose de particulier qui le rend apte à la musique ?
Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui le rendent particulier par rapport, par exemple, à d'autres espèces où on ne trouve pas la musique. Mmh. Et tout de suite, on est dans le cœur des mathématiques, sur une question qui est de très ample envergure que tu poses là. C'est un peu qu'est-ce qui nous rend un peu différent. Pourquoi on retrouve la musique chez l'homme, et on ne va pas la retrouver, en tout cas pas de la même façon, dans d'autres espèces animales. Bien qu'il y ait des oiseaux qui vont chanter, mais ils vont chanter plutôt pour se faire reconnaître, pour appeler un compagnon ou une compagne pour la reproduction, etc. Un tout petit peu pour la communication, quand même un tout petit peu, mais c'est pas vraiment la musique dans le sens où l'homme le fait, où l'homme l'a fait. Et là, qui nous rend un peu différent aussi de autres espèces et qui nous permet d'avoir la musique, c'est aussi la capacité de communiquer d'une manière aussi sophistiquée avec le langage. Et donc le cerveau, oui, il a sans doute quelque chose de spécial parce que pour l'homme, c'est indispensable de pouvoir communiquer, d'avoir un système de communication qui est complexe. C'est ça qui nous rend un peu unique. Nous sommes en train de communiquer là.
Exactement.
Toi, tu bouges, moi j'interagis, tu t'es à l'écoute, et etc. On pourrait très bien être en train de communiquer autre chose que des mots et être en train de jouer, par exemple. Oui. Voilà, des musiciens, ils sont là pour s'échanger des émotions, pour créer une cohérence dans un groupe, pour faire des fêtes, pour créer quelque chose d'unifié, de cohérent à l'intérieur d'un groupe. Et donc tout ça, le cerveau est capable de le faire grâce, effectivement, à un certain nombre d'air qu'on retrouve pas forcément chez d'autres espèces, qui sont plus développées chez l'homme par rapport à d'autres espèces. Et donc là, il y en a un certain nombre. Je vais pas forcément faire, parce que c'est pas ça qui est intéressant de rentrer dans le détail.
Non.
Mais en réalité, donc pour la musique, pour faire simple, d'une certaine manière, il faut un système de décodage de l'information auditive parce que ça rentre par les oreilles. Mais ça, d'autres animaux ont ça, oui, d'une manière très sophistiquée. Ils entendent très bien, les chiens même, ils entendent dans des fréquences très aiguës, etc. Les chats, ils entendent bien aussi. Il y a plein d'animaux qui ont une bonne audition, on va dire. Donc, ça suffit pas de dire qu'est-ce qu'ils n'auront. Voilà. Mais après, il faut faire des choses avec ces sons. D'une certaine manière, il faut jouer avec ces sons. Il faut avoir envie de jouer. Et jouer, c'est un peu comme un enfant qui prend des morceaux de capla, des morceaux de bois, qui va faire une construction. Voilà, il faut avoir envie de jouer avec ces sons et de le combiner. Et cet art de combiner les sons qu'on retrouve dans le langage, parce que le langage aussi, c'est plein de sons que je suis en train de produire pour te communiquer un peu mon message, même si je me perds un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et donc, cet art de combiner les sons, en fait, elle a lieu plutôt dans une partie du cerveau qu'on appelle le cortex frontal.
Oui.
Il est frontal parce qu'il est plutôt devant, on va dire. Et c'est le cortex frontal, en fait, qui nous différencie le plus au niveau déjà de la forme du cerveau par rapport déjà aux primates non humains et bien évidemment aussi à d'autres espèces qui ne sont pas de primates.
Alors, des fois on dit où se situe cette zone du cerveau réservée à la musique ? Est-ce que c'est le cerveau droit ? Est-ce que c'est le cerveau gauche ? Et je crois en fait que ça c'est une fausse question.
Oui, on pourrait dire que c'est une question mal posée, mais en réalité c'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de monde qui a encore cette vision-là. Et c'est une vision qui a des raisons d'être qui sont historiques et qui sont essentiellement liées à une étude du cerveau qui se base sur la lésion. Donc cette approche qui était l'approche classique du 19e siècle et d'une partie du 20e siècle aussi, où en fait il y a un patient qui malheureusement a un accident vasculaire cérébral, donc il y a une lésion, une partie du cerveau qui ne fonctionne plus et qui a du coup des déficits fonctionnels, donc par exemple il n'arrive plus à parler. Donc c'est là, par exemple, on aura entendu parler peut-être de l'aphasie de Broca ou de Wernicke.
Oui, bien sûr.
Et donc c'est là où on va constater que souvent les lésions de l'hémisphère gauche sont associées avec des troubles de la parole, du langage. Et ben c'est là aussi qu'on va voir que certaines lésions de l'hémisphère à droite vont toucher plutôt la musique. Donc il y a quelque chose qui est vrai, mais en même temps, ce qui n'avait pas été fait à l'époque. D'une part, on n'avait pas accès aux méthodes de neuroimagerie qu'on a actuellement, qui nous permettent du coup de regarder chez le sujet sain, comme l'IRM fonctionnel ou l'électroencéphalogramme, la magnétoencéphalographie. Il y en a plein de méthodologies qui nous permettent de regarder chez le sujet sain. Donc, quels sont les aires qui traitent quel type d'information. Mais après, aussi d'une manière un peu naïve, on peut aussi comprendre que chez quelqu'un qui a des problèmes de troubles de langage, on ne va pas tester les compétences musicales, en fait. Alors que des gens plus récemment se sont intéressés à ça, ils sont aperçus que les patients aphasiques, ils ont aussi des troubles musicaux. Et du coup, effectivement, cette dichotomie, déjà, rien qu'avec l'approche qu'on appelle l'approche lésionnelle, elle tombe un peu à l'eau, parce qu'on trouve souvent une comorbidité, en fait, on trouve pas une dissociation, en tout cas, nette entre les compétences langagères et les compétences musicales. Et ceci est d'autant plus vrai lorsqu'on va utiliser des méthodes de neuroimagerie et qu'on va effectivement regarder quelles sont les zones du cerveau qui sont importantes pour le langage, pour la musique. Et on va s'apercevoir que les zones qui sont plutôt spécifiques à la musique, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Celles qui sont spécifiques au langage, on reviendra plus tard, je pense, sur ces problèmes-là, oui. il n'y en a pas beaucoup. Et que finalement, cette dichotomie de cerveau droit, cerveau gauche, elle est moins marquée par rapport à ce qu'on pense avant. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est complètement fausse. Donc il y a une partie de vérité. Et c'est vrai que certaines informations, surtout les informations un peu plus lentes, le cerveau, il aime bien les traiter plutôt à droite, et c'est le plus rapide, plutôt à gauche. Mmh. Et donc, c'est vrai que le langage, il y a des informations qui sont importantes, qui sont très, très rapides. On parle de dizaines de millisecondes. Quand je dis rapide, ça veut dire très, très rapide. Pour distinguer un ba d'un pa, en fait, il y a 15 millisecondes dans l'information qui distingue un ba d'un pa. Alors que dans la musique, on aura moins cette problématique-là parce que les notes, ils vont être soutenues et les notes, elles vont durer quand même une centaine de millisecondes. Donc ça, pour le cerveau, c'est lent, on va dire. D'accord. On est sur l'échelle du cerveau. Hein, donc.
Oui, oui.
Et donc, il y a une espèce de prédilection, on va dire, pour tout ce qui est l'information plutôt lente, qui est plutôt traitée à droite, celle plutôt rapide qui est traitée à gauche. Mais c'est vrai aussi que certaines musiques, des changements de timbre, des changements de rythme, ben, eux aussi, ils vont reposer sur l'hémisphère gauche. Et qu'en réalité, ces deux hémisphères, ils travaillent la plupart du temps ensemble.
Ensemble.
Voilà.
Il y a plusieurs composantes dans la musique. On peut parler de mélodie, de rythme, de timbre et peut-être d'autres facteurs encore. Est-ce que le cerveau décode chacune de ces composantes de façon distincte ou bien décode-t-il tout ça globalement?
Alors, ça, c'est une question assez difficile. Et je pense qu'il va falloir faire quelques allers-retours.
Oui.
Je vais commencer par dire que l'information est plutôt traitée d'une manière globale. Parce que ça, c'est le message que je préfère donner. Voilà. Donc les gens, comme ils retiennent la première chose qu'on dit, voilà, c'est dit. Donc l'analyse est la plupart du temps globale. Ensuite, on peut aller préciser ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un son, prenons un son pour la musique. Okay? Le premier son d'une mélodie. Pam. Okay. Ce son, il a une fréquence, il a une durée, il a une intensité. Et ces informations, il faut bien qu'elles soient codées d'une certaine manière. Et il y a des zones différentes du cerveau qui vont traiter cette information. Par exemple, au niveau sous-cortical, mais déjà, la cochlée, qui est l'organe qui nous permet de transformer le son, est organisée d'une manière qu'on appelle tonotopique.
Ça veut
tono,
dire
topos, donc ton c'est la hauteur, topos c'est le lieu, ça veut dire que chaque hauteur a son lieu.
D'accord.
Ça veut dire que dans la cochlée, chaque endroit de la cochlée va coder des informations d'hauteur différentes. Les informations graves vont être codées plutôt à la fin, les informations aiguës plutôt au début, et cette tonotopie, ressemblance en fait au niveau entre la structure et le son, la structure, l'organisation fonctionnelle et le son, on va la retrouver au niveau sous-cortical et même au niveau du cortex. On va retrouver dans le cortex auditif primaire et certaines neurones qui vont répondre à des notes aiguës et d'autres à des notes graves. Ce qui veut dire qu'il y a une certaine spécificité, que certaines caractéristiques et sont traitées localement.
Oui.
Mais c'est un peu plus compliqué que cela parce que en réalité, toutes les informations et ils interagissent. C'est-à-dire qu'un son qui est court, lui, la durée du son va influencer aussi la perception de la hauteur. L'intensité, elle aussi, elle va influencer la perception de la hauteur. Et donc là, on reste juste sur un son. Okay? Maintenant, si on complexifie la chose, parce que la musique, c'est pas juste pim, mais c'est et donc toute une série de musiciens qui vont commencer à jouer, plein de sons en simultané.
Simultané,
et donc on a des mélodies, et donc là ça devient encore plus compliqué. Et bien évidemment, dans une mélodie, on pourrait se dire oui, mais chaque note, il faut que tu traites la hauteur, chaque note, il faut que tu traites la durée pour créer cette mélodie. C'est vrai, mais en même temps, ce qui fait le cerveau, il va toujours anticiper le flux d'informations. C'est-à-dire que toi, en ces moments, tu sais ce que je vais dire. Si je dis, quelqu'un vient de claquer là, porte, vraisemblablement. Il fait froid, il faudrait fermer la
porte.
Porte ou la fenêtre, etc. Oui. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et en musique, c'est un peu la même chose. Dans la musique, on va créer des prédictions, donc on va anticiper, le cerveau est toujours en train d'anticiper, et donc l'information, en fait, avant qu'elle arrive, on l'a presque déjà encodée. Donc l'information, quand elle arrive, elle est juste là pour confirmer que oui, effectivement, cette note l'a été jouée, mais d'une certaine manière, je le savais un tout petit peu déjà.
Ça, je reviendrai là-dessus parce que j'ai une question à te poser, mais continue. Voilà.
Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant pour montrer à quel point l'information est forcément traitée d'une manière globale.
Oui.
Parce que c'est ce que nous, on appelle les effets top-down, donc du haut vers le bas. Pourquoi on dit du haut vers le bas? Parce qu'on dit que c'est certaines régions du cortex qui sont intégrées, par exemple le cortex frontal, dont on a déjà parlé, qui vont influencer le structure du cortex auditif, qui lui code l'information auditive, qui lui-même, il va influencer les structures au niveau sous-cortical, qui eux-mêmes peuvent influencer même le fonctionnement de la cochlée. Donc, en fait, tout cet effet top-down. Et après, il y a l'information bottom-up, donc l'information qui remonte.
Oui.
Forcément, pour prédire quelque chose, on a besoin d'un port d'information. Mais là, tu vois qu'on a, du coup, toute une boucle. L'information, elle monte. Mm-hmm. Et en même temps, dès qu'on a suffisamment d'information, on va commencer à anticiper. Et donc, ce qui arrive, il est là juste pour confirmer ce qu'on aurait déjà anticipé. Et donc, c'est ça qui est compliqué aussi d'une manière générale dans l'étude du cerveau. C'est, oui. Ça ne concerne pas seulement la musique, mais ça concerne le fonctionnement du cerveau. Mais c'est entre autres, d'ailleurs, je pense, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais je pourrais en dire un mot justement maintenant. Une des choses importantes quand on écoute la musique, c'est ce plaisir qu'on a en écoutant la musique. Et une partie de ce plaisir, je pense, c'est justement, il est là, dans la confirmation de nos attentes. Voilà. C'est quand même agréable de se retrouver un peu chez soi, de dire, ah, tiens, je m'attendais à ça, et bien, c'est là. Cette note, oui. J'avais envie, hein. Pam, parabam, pam, pam, pam. Forcément, il faut que ça arrive là, oui. Parce que c'est la tonique, et donc on a envie d'aller sur cette note-là, et on ne peut pas aller ailleurs. Et donc, il y a un côté de plaisir et d'esthétique aussi sur ça.
Alors, moi, je voudrais te poser une question. Là, depuis tout à l'heure, je t'entends dire, quand il s'agit d'une phrase... Bon, on entend le sens des mots et on peut anticiper. Tu as dit « je vais fermer là ». Bon, on anticipe et on dit la porte, bien sûr, ou la fenêtre, bon, peu importe. Mais au niveau de la musique, le fait, il n'y a pas un sens dans les notes. Comment le cerveau peut-il anticiper ?
On peut anticiper, oui. Et on anticipe sur d'autres paramètres. En fait, on n'anticipe pas sur le sens, mais déjà, on peut anticiper sur le timbre. Par exemple, nous sommes en train d'écouter un piano, oui. Un pianiste qui joue tout seul. On sait déjà que ça va être du son du piano. On ne va pas s'imaginer qu'il y a un violon qui va arriver. Si c'est un duo, bon, déjà, on peut anticiper ça. Ensuite, on va anticiper sur le rythme, sur la pulsation, c'est-à-dire quelle est note. Parabarapam, pam, 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 param, pam, parabarapam, pam, pam, parabam, pirararam. Donc le rythme va créer aussi une structure temporelle. Donc on s'attend à voir des notes à certains moments plus qu'à d'autres.
C'est exact, oui.
Et ensuite, il y a l'aspect mélodique aussi.
Alors, voilà.
Et là aussi, on devrait parler un peu de choses un peu plus, de termes un peu plus compliqués, peut-être de musicologie, comme la tonalité. La tonalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans chaque morceau dans la musique occidentale, on va dire, mais dans plein d'autres cultures aussi, il y a un attracteur, comme un centre de gravité, qui est la tonalité, et qui est en fait une note qui est importante, particulièrement importante, à un moment donné, qui devient un peu le centre, et toutes les autres notes, elles tournent autour.
Oui.
Mais celle-là, en fait, au final... Comme que j'ai chanté tout à l'heure, la petite mélodie pam parabam pam pam pam. Et il faut oh pam pam. Je peux pas faire pam pam.
Oui.
Ça marche pas. Tout le monde dira ah il s'est trompé, c'est une fausse note, etc. Donc tout le monde sait qu'il y a des fausses notes. Et ces fausses notes en fait, et tout le monde peut les entendre. D'ailleurs on reviendra là-dessus tout à l'heure
sur le fausse note.
Mais elle est fausse parce que il y a un certain nombre de notes qui ont créé un centre de gravitation tonale autour de la tonique et donc dans cette tonalité là il y a que certaines notes qui peuvent être placées et donc ça le cerveau aussi il sait très bien ça c'est géré par des règles et des règles qu'on appelle les règles de l'harmonie comme dans le langage il y a la syntaxe c'est la jolie fille et pas la jolie garçon ça marche pas.
D'accord.
Il n'y a aucune chance de dire la jolie garçon sauf moi, je pourrais le dire, parce que je pourrais me tromper quand je suis fatigué et faire des fautes de grammaire.
Moi qui entends mal.
mais dans la musique, c'est un peu la même chose. Il faut voir que là aussi, il y a une syntaxe, en fait. Il y a des règles qui sont aussi assez sophistiquées et qui nous permettent de prédire dans une certaine mesure, quel type d'information on va voir. Mais, il y a un mais, parce que ta question est une question maligne quand même. Mais dans la musique, il y a plus de liberté, il y a plus de souplesse donc, par rapport au langage. Donc effectivement, dans le langage, comme il y a déjà des règles très fixes et rigides au niveau de la grammaire, donc la jolie fille, mm-hmm. on ne peut pas dire la jolie garçon, donc ça c'est pas mm-hmm. possible, mais aussi il y a ce que tu disais tout à l'heure, la prédiction, donc le sens, on fait un sens dans une phrase, donc on sait, et s'il te plaît, on est en train de manger, les pâtes mm-hmm. elles sont pas très bonnes, je te regarde, je te dis s'il te plaît passe-moi le sel, mm-hmm. et tu sais que je vais te demander le sel, ou passe-moi oui. le poivre, ou alors ça sera le parmesan, mais mm-hmm. voilà, je vais pas te demander passe-moi tes chaussures, tu vois, et ça serait très peu probable. Alors musique, il y a beaucoup plus de bifurcations possibles. Il y a beaucoup plus de choix possibles, on va dire, dans une phrase. Et d'ailleurs, Bach, c'est un génie là-dessus. On n'arrive jamais à anticiper. C'est très dur de le mémoriser, d'ailleurs. Bah, parce que lui, il dit, ah, il va aller là. Et en fait, non, il ne va pas là, il va de l'autre côté. Mais c'était l'autre côté, mais c'était un peu moins probable. Mais c'est bon aussi, quand même. Donc, mm-hmm. ça marche. Donc, il y a quand même des règles à respecter. Les compositeurs, ils les connaissaient bien. Mais ces règles, elles sont un peu moins strictes. Donc, effectivement, ça fait travailler aussi cette propriété d'anticipation, d'une certaine manière. L'écoute de la musique nous oblige à travailler ça. Parce que le monde de possible, à chaque instant, est multiple. Mmh. Et donc, à quel endroit le musicien, il va nous amener ? Voilà. Ça, c'est un peu la okay. surprise. Et c'est un peu le plaisir aussi d'écouter la musique.
Oui, alors je me pose la question. Et puis après, on passera à autre chose. Mais je me pose la question. Ces règles dont tu as parlé, est-ce que ce sont des règles rationnelles ou c'est des règles qui relèvent de l'affect, de l'émotion ou d'autres choses ? Je ne sais pas.
Alors, il y a un débat par rapport à ça. Les règles de la musique, d'une part, elles relèvent de certaines propriétés des sons et de notre système auditif. Une propriété importante des sons, c'est que dans chaque son, en fait, il y a plusieurs sons.
Oui.
Quand on joue un son d'un piano, qu'on dit, on joue le La
qui vibre.
À 440, mmh. en fait, il va y avoir ce qu'on appelle les harmoniques.
Oui.
Donc, dans ces La, il va y avoir plein d'autres sons. Donc, c'est-à-dire que les sons, c'est des sons qu'on appelle complexes, c'est pas des sons purs. Un son pur, ça serait juste une onde qui oscille à la même fréquence.
C'est ce qui fait le timbre des instruments.
Voilà. Ça fait le timbre des instruments et ses propriétés, c'est des propriétés qui sont assez naturelles. C'est-à-dire mmh. que la structure, la série harmonique, en fait, elle sera fixe. Mmh. Okay? Pour des sons harmoniques comme un violon, un piano, il va y avoir plus ou moins de certains harmoniques, mais ces harmoniques, ça sera toujours le même.
Bon, ça, c'est de la physique.
Voilà, ça, c'est de la physique. Et là-dessus, en fait, ce qui fait que dans une série de sons, ben, il va y avoir certains harmoniques qui vont revenir plus souvent que d'autres. Mmh. Et ces harmoniques, en fait, dans le do, par exemple, il y a beaucoup de do, mais il y a aussi du sol. Mmh. Il s'avère que le sol, en do majeur, c'est la dominante. C'est-à-dire que la deuxième note plus importante, c'est le sol, et c'est on appelle ça la dominante.
Oui.
Et que c'est une des notes harmoniques la plus importante. On la trouve assez tôt dans la série harmonique. Donc ça, pour dire qu'il y a une partie qui est reliée aussi à la physique. La physique détermine, du coup, un certain nombre de règles perceptives. Mais néanmoins, il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que le cerveau, lui aussi, il peut se passer, dire bon, la physique, c'est bien, c'est important, mais moi, je peux aller un peu plus loin, et du coup, créer aussi des règles qui sont assez abstraites, comme on peut trouver dans le langage, par exemple, la jolie fille ou la jolie garçon, c'est complètement abstrait. C'est pas dans la physique des sons, en fait. C'est fille, c'est féminin, mais la notion de féminin, c'est une notion assez abstraite. Et donc ça aussi, on peut retrouver dans la musique, bien que ça soit, on le retrouve ça un peu moins par rapport au langage.
Thank you.
Merci Daniel Schoen pour cet éclairage sur le thème musique et cerveau. Nous terminons cette émission par une œuvre que tu as choisie, Vivaldi, sonate numéro 3, et peut-être aurons-nous l'occasion de poursuivre ce thème avec toi. Merci encore, au revoir. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.